Alternative sur CFM Keilus, une émission animée par Laure sur les pratiques qui nous permettent d'être bien, d'être mieux. Le samedi 11h et le lundi à 13h. À bientôt.
Elle continue à dire à bientôt alors que l'émission commence, Alternative avec Laure Rose qui invite aujourd'hui Christina Winkler, gestalt-thérapeute, et Anne-Marie Fréchin, psychosynthèse. Alors, il va falloir m'expliquer. Hein.
Comment tu as dit pour Christina? Pourtant, elle est déjà venue, Christina.
Christina Winkler, gestalt-thérapeute.
Ah oui. Alors, est-ce que tu te rappelles de la définition de la gestalt-thérapie?
Mais bien sûr. Quoi, alors, il y a un terreau, là? On ne m'avait pas dit qu'il y avait un terreau, madame.
On va peut-être demander à Christina de nous rappeler ce que c'est que la gestalt-thérapie.
Oui. Alors, bonjour d'abord. Merci de m'accueillir à nouveau. Je suis très contente d'être là. Gestalt-thérapie, donc, c'est une forme de psychothérapie qui se base surtout sur l'ici et maintenant et sur remettre en mouvement les choses qui sont restées un petit peu en stagnation dans notre vie, les choses qui nous bloquent, les choses qui nous empêchent de vivre notre vie tout pleinement. Donc la gestalt-thérapie a pas mal de moyens de retrouver ce libre mouvement pour se sentir bien.
Moi, j'avais noté que ça dérouille. On est rouillé, ça dérouille, ça dégrippe.
Et des fois, ça déverrouille même.
Bon, il faut que ça soit mécanique, moi, pour que je comprenne.
Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour toi. Et Anne-Marie, elle, se spécialise en psychosynthèse.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Donc, la psychosynthèse, c'est une méthode de psychothérapie qui vise notamment à la synthèse de l'être. Ça veut dire que on va travailler sur les différentes dimensions de l'individu, la dimension corporelle, émotionnelle, mentale, et on vise à faire la synthèse entre ces différentes dimensions. Et par ailleurs, une autre particularité aussi de la psychosynthèse, c'est qu'on va travailler sur les différentes parts de la personnalité de façon là aussi à permettre l'harmonie et la synthèse de se faire entre nos différents aspects de notre personnalité.
Les différentes parts de la personnalité, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez élaborer ?
Alors, c'est ce que nous, on appelle les sous-personnalités. Ça veut dire que dans la vie, on est identifié à des rôles ou parfois à des états d'âme ou à des émotions. Et donc, à partir de là, on va perdre la globalité de notre individu, mais se retrouver plutôt identifié à une part de nous ou enfermé dans un rôle. Donc souvent, moi j'utilise aussi comme métaphore la notion de l'orchestre et du chef d'orchestre, c'est-à-dire que on est une multitude de personnages, on peut avoir différentes casquettes, et ce qui est plutôt sympathique, c'est quand on reste le chef d'orchestre de nos différentes personnes, de nos différentes parties.
On n'est pas forcé de se cantonner au violoncelle ou à la flûte toute sa vie, en fait, c'est ça.
Voilà. Non, c'est quand on est dispersé façon puzzle, elle recompose, en fait.
Voilà. C'est parti pour les citations culturelles.
Avec des images, je comprends, moi.
Alors, en février, je me suis rendue au Forum Équilibre, qui est organisé à Montauban. Je suis allée écouter une conférence d'Anne-Marie et de Christina sur la gestion des traumatismes, qui était très intéressante et qui prouve que le point commun en fait, de vos deux approches, c'est l'utilisation d'outils réellement pour aider les personnes à résoudre des... Comment tu disais déjà, des blocages, non, de la rouille, c'est ça? Les choses qui sont rouillées, qui sont verrouillées.
On n'est pas obligé de garder mon vocabulaire à moi,
mais
parce
si, c'est très
que
bien.
Ça se perdrait. Hein.
Et donc, j'ai envie de vous demander, quelle est la définition, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme?
Alors, un traumatisme, c'est un événement brutal qui vient faire effraction au niveau du psychique. Donc, c'est souvent un événement extérieur, à type d'accident, de catastrophe naturelle, voilà. Et tout d'un coup, on est face à un événement qui peut pas être intégré au niveau du psychique, donc qui vient faire effraction et qu'on peut pas nommer, qu'on peut pas penser. Ça, c'est ce qu'on appelle les traumatismes de type 1, bon, classique au niveau médical. Ensuite, finalement, en psychothérapie, on travaille avec d'autres traumatismes qui sont plus insinueux, qui sont souvent répétés. Je peux laisser Christina parler de ces seconds types de traumatismes.
Il y a un autre type de traumatisme qui est en fait une sorte de traumatisme cumulatif. C'est-à-dire, on va, selon notre sensibilité, être interpellée ou un petit peu choquée, sidérée par des événements. Ça peut être tout simplement des images, par exemple dans les films. Les enfants, parfois, ils restent bloqués sur l'image d'un film. Et ça peut être une forme de traumatisme, disant que ça suit le même mécanisme que les traumatismes dans le corps. La réaction corporelle est la même. Donc, au fil de la vie, il se peut que des choses soient associées. Hein, il y a un événement initial qui peut-être pas très très important, mais isolé. N'est pas très important, mais au fil de la vie, cumulé avec d'autres événements qui ressemblent un petit peu à cette chose-là, ben ça va devenir de plus en plus important et libérer une charge émotionnelle très très forte et très profonde jusqu'à parfois produire des attaques de panique, par exemple. Des attaques de panique inexpliquées peuvent être le résultat de traumatismes cumulatifs au cours de la vie.
Et donc, ce n'est pas toujours des choses... parce que tu disais que c'était un événement extérieur. Est-ce que c'est toujours extérieur ou est-ce que ça peut être... Parce que Christina parlait de choses plus insidieuses.
En fait, c'est toujours le ressenti et le vécu de l'événement. C'est-à-dire que ce n'est pas tant l'événement en soi que la façon dont la personne le vit et le perçoit. Voilà, ce que ça a aussi comme propriété, à un moment donné, c'est que ça submerge la personne, en fait. La personne, elle est submergée par son vécu.
Ben alors donc là on sort, on est très loin, on peut être très loin des catastrophes naturelles, ça peut être des toutes petites choses.
Oui, absolument. Ouais. Ça peut vraiment être des toutes petites choses comme la mort d'un animal de compagnie.
Ça c'est pas une toute petite chose, c'est énorme.
Ouais,
ça.
Ben, oui, c'est énorme, mais je veux dire c'est oui, bien sûr, ça peut être énorme effectivement.
La confrontation avec la mort, c'est... même si c'est un cochon d'Inde.
Le sein de la mère qui donne plus de lait.
C'est un traumatisme.
Par exemple, c'est un traumatisme. Voilà, et puis comme je disais, un film, ça c'est important quand même de comprendre, ou une histoire qu'on raconte, ça peut être traumatisant, parce que le cerveau, il vit les images et il vit ce qu'il entend comme une réalité propre.
L'imaginaire rend réel.
L'imaginaire rend réel, oui. Mmh. Et rend réel au niveau physiologique, c'est-à-dire le corps va générer les mêmes hormones, les mêmes enzymes que pour un événement réel et un événement fictif.
Fictif.
On parle de réalité psychique, en fait. Ça veut dire qu'un événement, même s'il n'est pas réel, même s'il est imaginaire, en fait, c'est une réalité psychique. Donc, effectivement, il va entraîner tout ce que disait Christina. Mais à partir de là, c'est vrai que pour l'extérieur, l'événement peut ne pas du tout être traumatisant. Mmh. Et pour la personne, il le sera. Et donc, on peut d'autant plus passer à côté, notamment quand c'est des enfants, que les parents ou l'extérieur ne voient pas ce qui est traumatisant dans cette...
Voilà. Et mais c'est rien, ça, c'est un rat.
Non, moi, je me rappelle d'un exemple typique. Je m'étais rendu compte, après coup, qu'un de mes enfants avait été assez traumatisé parce que, d'un seul coup, au supermarché, il ne m'avait plus vu. Et il a cru que j'étais vraiment partie. Et après, en tant que maman, tu t'interroges, tu te dis, mais comment cet enfant a-t-il pu penser que sa mère l'abandonnerait? Mais il était resté choqué par ça.
Mais parce que les supermarchés sont les forêts modernes où on va perdre les enfants. Non, moi je vois que ça.
Oui, hein. c'est
une bonne explication. Ouais.
Moi, mais... j'allais les perdre aussi dans la forêt, mais... Je me demandais, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une fonction... au traumatisme, parce que par exemple quand on raconte des contes de fées ou qu'on regarde Blanche-Neige, c'est traumatisant finalement. C'est fait exprès un petit peu, ça. Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme formateur?
Alors, là, je trouve qu'on met en mots justement le propre aussi du traumatisme quand il est vécu, c'est qu'il n'est pas nommable, il n'est pas pensable, donc il ne peut pas être intégré. Alors que dans les contes, où en fait on va mettre en mots... Mmh. De façon justement à ce que ça puisse être intégré, pensé. Il y a un support, en fait. Ça prend sens au travers de l'histoire. Donc, c'est aussi une façon de s'adapter avec cette réalité qui pourrait être traumatique. Mais pour le coup, je ne sais pas, Christina, la fonction du traumatisme...
Alors, la fonction du traumatisme, je pense que c'est justement... le fait de ne pas intégrer un événement qui est trop puissant, qui paraît trop puissant émotionnellement. C'est-à-dire, ça va nous protéger de la charge émotionnelle. Enfin, c'est une mauvaise protection, on va dire, plus tard.
Non, mais ça, c'est comme les TOC que le psychisme développe pour se protéger de choses beaucoup plus angoissantes,
c'est
je suppose.
C'est ça. Oui, c'est le même principe. C'est-à-dire, plutôt que de subir quelque chose que le corps ne peut pas résorber en termes de charge, eh bien, le psychisme trouve un moyen de se dissocier. Le stade le plus élevé de ce qui peut être traumatisant, c'est la dissociation jusqu'à la schizophrénie. La schizophrénie est une forme de dissociation. Et donc, on ne peut pas dire non plus que la schizophrénie vient parce qu'il y a traumatisme psychique, mais...
C'est souvent le cas. Est-ce qu'il peut...
Je ne sais pas si on peut schématiser. Je ne m'aventurerai pas là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Chaque cas est particulier. Mais on peut en tout cas dire que la schizophrénie est une forme de dissociation due à X choses.
Et donc, pour revenir à mon exemple précédent, Anne-Marie, vous ne pensez pas que le fait que la maman meure quand il y a la neige dans Bambi, ça soit quelque chose qui marque profondément
Je commence à comprendre le but de cette émission, c'est pour qu'elle comprenne tout ce qu'elle a traumatisé quand elle était petite, en fait.
En fait, si, évidemment, c'est traumatisant. Par contre, on peut penser a priori que les parents sont aussi à côté, que les enfants ne sont pas seuls face à ces dessins animés, et qu'en fait, les parents vont pouvoir transformer, parler, dire ce qu'il en est, recevoir en fait l'enfant à ce moment-là, et faire un accompagnement avec l'enfant qui va lui permettre aussi justement de pouvoir regarder le film et puis prendre contact avec ses émotions, prendre contact avec ce qu'il en est et quelque part en faire quelque chose avec ses parents, quoi.
Et du coup, ces contes, qui sont souvent des films maintenant, apprendraient aux enfants à gérer les agressions extérieures quelque part.
Alors c'est une expérience, c'est vrai que c'est une expérience de vécu et d'intégration. Quand tout à l'heure on parlait de dissociation, c'est vrai que quand on est juste dans, par exemple, on vit un événement et on est hébété en stupeur, ou on ne ressent rien, on est figé, c'est aussi une forme de dissociation parce que finalement, on n'est pas dans son ressenti, on est coupé de son ressenti parce que justement le ressenti serait probablement trop violent,
trop fort.
Ou par exemple, on voit aussi des gens dans des situations d'urgence qui passent un peu en pilote automatique, qui font des gestes de survie. Et en fait, là encore, finalement, c'est la survie et l'événement, tout le vécu émotionnel, à ce moment-là, il est différé, il est mis de côté.
Donc la dissociation, c'est une bonne chose parfois, puisque c'est un mécanisme de survie.
Oui,
je pense qu'on peut dire ça. Ouais. Alors pour revenir au conte, moi je trouve que c'est délicat cette question parce que ça mériterait un questionnement anthropologique, sociologique, etc. Parce que historiquement le conte, c'est vieux les contes. Enfin il y a des contes modernes, mais le conte auquel on pense là,
c'est traditionnel en tout cas.
C'est vieux et je pense qu'autrefois ça remplissait une fonction d'exemple, rien que ça. C'est-à-dire aussi de pouvoir imaginer certaines situations qui, heureusement, n'apparaissent pas trop dans la vie quotidienne, surtout à l'époque.
Les loups mangent pas les grands-mères systématiquement dès qu'ils en croisent une.
Mais je sais pas. Non, certainement pas. Non. Mais je pense que ça avait une fonction probablement de provoquer un imaginaire et à la fois de libérer certaines peurs et peut-être de bien sûr aussi il y a toujours une moralité dans les contes donc à l'époque ça répondait aussi à une certaine façon de voir la vie,
transmettre
des valeurs, de vivre ensemble, comment il fallait être, comment il fallait se comporter, etc. Donc c'était il y avait tout ça là dedans mais je crois que c'est aussi une façon de se confronter à la peur et les enfants nous, les êtres humains, on traverse des phases de la vie où on a besoin de se confronter à la peur. Les enfants, besoin plus ou moins, je crois qu'il y a des êtres qui sont plus attirés par ça, mais je sais pas, les ados,
là,
par exemple.
Ça me laisse un peu dubitative. Alors, on a besoin de se confronter à la peur.
Je crois qu'il y a beaucoup de, d'enfants. Les enfants, ils jouent souvent à des jeux, parfois un peu violents.
Ah oui, ils se racontaient des histoires de fantômes, tout ça.
Voilà, ils se racontaient des histoires de fantômes. Après, il y en a.
Et s'il n'y avait pas les ogres, tous ces pédophiles, finalement? Parce que, qu'est-ce que, les ogres, ça mange les enfants dans tous les contes, non? Quoi, c'était pas un message subliminal, ça? Ah, mais c'est une vraie question, hein.
Ce n'est pas la réponse.
C'est quoi la fonction de l'ogre dans le conte?
Fonction de l'ogre dans le conte.
Sur le cannibalisme, c'est tout. Ça me rappelle une question qu'on m'avait posée à la fac. Parce que les profs de fac, des fois, ils vous posent des questions étranges. On étudiait Alice au Pays des Merveilles et on nous a demandé de pondre un essai sur le cannibalisme dans Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai pas pris ce sujet-là parce que vraiment, je le sentais pas.
Je prendrai le sujet de l'ogre.
Et tu t'es demandé pourquoi tu n'avais pas pris ce sujet-là? C'est intéressant de travailler là-dessus. Sur le refus, finalement.
J'avais d'autres trucs à creuser.
Sur l'esquive. Pardon, Christina, je vous ai coupé. Oui, la fonction du conte, les peurs. C'était ça la question.
Oui, donc je peux imaginer qu'il y a une dimension comme ça aussi, où l'être humain, bon, il aime bien quand même avoir peur parfois, et peut-être autrefois ça prenait cette forme-là, et que les parents, la peur permet aussi de maîtriser certaines choses, hein. Quand un enfant a peur, ben, parfois il est plus facilement maîtrisable peut-être quand il n'a pas peur, donc autrefois il y avait l'éducation fonctionnait parfois un petit peu comme ça aussi.
Oui, mais est-ce qu'il a besoin d'avoir peur ou est-ce qu'on a besoin de lui transmettre?
Oui, voilà. De toute façon.
Ah oui, la peur, c'est bien de connaître cette dimension-là en nous.
Ouais. La peur, ça va aussi avec, finalement, ça peut être la conscience du danger. Donc c'est la conscience du danger, elle est nécessaire. Après, je pense aussi qu'on est tous confrontés à des émotions et des émotions de peur. Et quand ça nous concerne, en fait, on peut ressentir de la peur. Donc aussi, au travers des fois des contes, ça veut dire qu'il y a un support extérieur qui est le conte, qui commence toujours d'une certaine façon. Il était une fois, qui finit toujours par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Donc en fait, l'enfant, il sait quand même quelque part que c'est un conte, que c'est imaginaire.
Que ça va s'arranger.
Voilà. Et en fait, à travers cette histoire-là, il peut aussi explorer son vécu émotionnel. Et on peut dire que, effectivement, ça peut être aussi une façon après de prendre contact avec ses émotions au travers d'un conte et une expérience qui l'amènera après, plus tard dans la vie, quand il sera, lui, confronté à des émotions aussi, de pouvoir avoir déjà traversé ça avec un conte, en fait. Je pense qu'on peut aussi le voir comme ça.
Oui, est-ce que c'est pas jouer de toute la palette des émotions pour en fait être capable de les appréhender en situation réelle après? Je dis ça, je dis rien, moi.
Qu'il y a ce facteur-là. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de symbolique, en fait. C'est-à-dire que c'est effectivement des choses qu'on retrouve dans la vie courante, qui sont symbolisées effectivement dans le conte. Et auquel l'enfant, il va finalement pouvoir s'identifier à tel personnage, ou s'identifier au bon, ou s'identifier au méchant. Et là encore, quoi, c'est une façon d'avoir une lecture de la réalité, de commencer à pouvoir intérioriser et intégrer des choses extérieures. Quoi.
Et on n'avait pas dit au début qu'on mettait de la musique de temps en temps.
On y va.
Ah ben, on en met une tout de suite. Hein. Thank you. C'était le piano de Ruben González dans Alternative, l'émission de Laure Rose qui reçoit aujourd'hui Christina Winkler et Anne-Marie Fréchin, qu'on a égarés sur les routes du conte comme des petits poussés, mais qui ont retrouvé leur chemin grâce aux petits cailloux qu'on a
reçus. Hein.
Oui, ah ben ça.
Ils ont trouvé tous les petits cailloux pour retrouver leur chemin.
Bon, maintenant, les pauvres, faut les réorienter sur des choses un tout petit peu plus sérieuses quand même.
Alors, on a parlé de peur. Le thème, on a commencé sur le traumatisme, il faudrait parler peut-être de violence maintenant, parce que vous parliez de stress cumulatif, c'est ça ?
De traumatisme cumulatif, oui.
Donc, par exemple, on peut imaginer quelqu'un qui a vécu quelque chose d'un petit peu difficile dans son enfance, et est-ce que ça peut être entretenu ? Est-ce que ça peut se cumuler, par exemple, avec la violence qu'on voit dans un film, dans un jeu vidéo ?
Oui, absolument, oui. Oui. Par exemple, un enfant qui a vécu un petit incident quand il était tout bébé, j'aime bien prendre l'exemple de la mère qui donne à manger dans la cuisine à l'enfant, et puis il y a quelque chose qui prend feu sur les plaques. Donc la mère, elle maîtrise l'incident, mais il y a quand même de l'émotion, c'est un peu la panique, tout d'un coup il se passe quelque chose qui est d'inhabituel. Et l'enfant, il est avec cet événement-là qui, bon, il n'y a pas eu de conséquences graves, donc rien ne s'est passé de méchant, mais il y a eu une charge émotionnelle importante que l'enfant...
Il y a eu une impression importante,
voilà. Alors, mettons 10 ans plus tard, cet enfant, il voit un film où il voit l'événement du 11 septembre à la télé.
Dans toutes les séries américaines maintenant.
Voilà, exactement. Ou n'importe quel immeuble qui prend feu. Et ben, dans le cerveau, il va faire ce rapprochement sans le savoir, puisqu'il
n'a
pas, voilà, puisque cet événement premier est resté inconscient. Hein, il a oublié. Parce qu'il n'y a pas eu d'incidence là-dessus. Donc, le cerveau, il va rassembler ces deux images comme étant un signal d'alerte, quoi. Quand il y a le feu, quand il y a des images de cet ordre-là, eh ben, c'est la panique qui va commencer à s'installer. Hein. Et petit à petit, on appelle ça le circuit court de la peur, eh ben, les associations vont être de plus en plus rapides. Donc, mettons, on voit un petit filet de fumée, et ben, ça va être associé tout de suite à un gros incident émotionnel, et donc va générer la panique, vraiment des crises de panique, éventuellement, hein, pour cette personne-là, parce qu'au fil de la vie, ça s'est répété. Hein.
Donc, si on réagit excessivement à quelque chose d'apparence anodine, on peut se poser la question, on doit se poser la question de la possibilité d'un traumatisme antérieur.
Oui, voire de plusieurs incidents qui ensemble produisent un traumatisme, ou une émotionnalité traumatique, on va dire.
Une émotionnalité traumatique, on le ressortira celui-là, hein, ça peut servir. D'accord, donc du coup les traumatismes ne sont pas toujours conscients.
Non, absolument. Surtout quand ce sont des choses, c'est ce qui arrive aussi dans tout ce qui est harcèlement, par exemple. Les gens, en général, ils disent, oui, mais enfin, bon, il me dit ça, mais c'est pas grave.
Et puis, il dit ça à tout le monde, et puis personne ne dit rien.
Voilà. Sauf que, quand ça se répète depuis X temps, X années, etc., toujours la même chose, toujours le même système, voire avec des petites variations, donc on peut même pas dire c'est toujours pareil, éventuellement. Mmh. Donc, c'est très insidieux, et ça finit par, émotionnellement, produire quelque chose qui est traumatisant. Parce que c'est répétitif, c'est des choses qui se ressemblent sans trop se ressembler, ça a l'air anodin, isolé, comme
isolément,
ça.
Isolément, c'est anodin, mais en fait, mis bout à bout, c'est là que ça perd le côté anodin et que ça devient du harcèlement ou de la violence. En fait, c'est pas en tant que tel l'événement isolé, mais c'est bien le cumul de tous les événements, de toutes ces petites choses cumulées.
Et je suppose que nous ne sommes pas tous égaux, évidemment, dans la gestion du traumatisme.
Absolument, oui. C'est tout à fait en résonance avec notre histoire, comme on vient de dire. C'est-à-dire, si j'ai déjà vécu des choses de cet ordre-là, je vais être davantage sensibilisée que quelqu'un d'autre. En fonction de ma sensibilité émotionnelle, il y a des gens qui sont
qui ont une cuirasse plus solide.
Oui, voilà, qui résistent mieux à certaines choses que d'autres.
La violence de l'un commence là où commence la fragilité
de l'autre.
C'est pas une mauvaise définition, ça.
C'est chouette, j'aime bien, oui. Parce que c'est vrai que ça tient compte de l'idée que ce qu'on peut dire à une personne, ce qui va faire rire l'un, et ben peut-être ça blessera quelqu'un d'autre. Et que donc on a aussi à prendre en compte qui on a en face de nous et comment on s'adresse aux personnes individuellement et pas.
Bon alors, et qu'est-ce qu'on fait avec tous ces traumatismes ? Parce que vous avez des solutions.
Alors. En fait, avec Christina, on travaille de deux façons différentes. C'est-à-dire que d'une part, on va considérer que quand le traumatisme, il a laissé, entre guillemets, trop de traces ou trop de réactivité, en fait. Donc après, face à un petit événement, de suite, la personne, en fait, elle est réactive et elle réagit émotionnellement de façon a priori à l'extérieur, peut-être de façon démesurée pour une petite chose. Donc là, en fait, on peut travailler vraiment au niveau du cerveau, de ce qu'on appelle le traitement de l'information, c'est-à-dire qu'on peut considérer que ces traumatismes passés, en fait, ils n'ont pas été complètement réglés au niveau cérébral.
Pas intégrés,
en fait. Qu'il y a eu des traces, en fait, ou des séquelles de ces traumatismes-là. Donc, on peut travailler d'une part, en fait... Alors, moi, je travaille avec le MDR. Hein, c'est des mouvements oculaires, en fait.
Le MDR ? C'est que des mouvements oculaires ? Qu'est-ce que ça veut dire EMDR ?
EMDR, ça veut dire Eye Movement Desensibilization et Resensibilization. Voilà. Donc c'est des mouvements oculaires donc qui vont stimuler les différentes zones, enfin qui vont stimuler les zones de cerveau et qui vont surtout permettre un traitement de l'information. Donc ça veut dire que ce qui est resté stocké au niveau du cerveau émotionnel, le traumatisme qui est stocké au niveau du cerveau émotionnel, en fait, il va être retraité au niveau cérébral. Repartir dans des circuits cognitifs où il va y avoir, là évidemment, j'allais dire, une prise de distance, ça va prendre un autre sens, voilà, ça va être intégré et donc ça va permettre ensuite que quand la personne soit face à ces événements qui avant étaient des événements déclencheurs, où ça redéclenchait des souvenirs, ça redéclenchait des émotions, ça redéclenchait des réactions physiologiques, et bien en fait la personne va pouvoir réagir.
Donc votre outil de travail, c'est les mouchoirs.
C'est les mouchoirs, oui.
Je suppose que quand on fait revenir des choses qui ont traumatisé, ça ne doit pas faire plaisir.
Alors, c'est effectivement, mais pas forcément. Parfois, c'est assez surprenant parce que j'allais dire, dans des techniques comme ça, en fait, le MDR, c'est vraiment un traitement de l'information. Ça veut dire qu'on laisse effectivement venir des choses à la conscience. Pour autant, ça peut être effectivement douloureux. Mais parfois, c'est même surprenant parce que parfois, les gens n'ont contactent pas forcément quelque chose de douloureux. Et pour autant, le traitement se fait et ils se rendent compte après que face à un événement qui auparavant aurait déclenché quelque chose, là, ça déclenche pas. Voilà.
Donc, est-ce qu'on est forcé de se remémorer les chocs initiaux, les traumatismes initiaux ? Ou est-ce qu'on peut agir avec cet outil sans passer par la case mémoire ?
En fait, ça, c'est pas une part de l'outil qu'on contrôle. C'est-à-dire que c'est bien le cerveau et les souvenirs qui reviennent à la conscience et on va pas décider de ce qu'on va... Donc, c'est pas « il faut se souvenir ».
Non, ça fait pas partie de de la méthode.
C'est pas il faut se souvenir, c'est en fait on fait confiance à ce qui se passe. Il y a des images qui reviennent, des images, parfois des sons, des odeurs. Parfois c'est du matériel entre guillemets insignifiant. La personne va être surprise en disant tiens pourquoi ça vient. Parfois par contre ça va être effectivement des choses plus douloureuses. Mais l'efficacité après va pas forcément dépendre de ça. Et ensuite, les traumatismes, je travaille aussi avec la psychosynthèse, parce que là, c'est aussi donner du sens et c'est aussi permettre à la personne de se réapproprier son vécu, son ressenti.
La psychosynthèse, faut expliquer ce que c'est, la psychosynthèse, complètement.
Dans ce cas-là, par exemple, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple imaginaire, vous pourriez faire je sais pas, par exemple, moi j'ai un exemple récent de quelqu'un qui est venu me voir et qui avait subi un traumatisme. En fait, elle avait subi une opération chirurgicale et en salle de réveil, elle s'est réveillée et elle s'est rendue compte qu'elle était attachée. parce qu'ils font ça des fois dans les salles de réveil, ils vous attachent pour pas que vous vous fichiez par terre. Et elle est restée traumatisée par ça. C'est en lui parlant, je me suis rendu compte de ça. Dans ces cas-là, vous, qu'est-ce que vous faites typiquement ?
Alors, je peux effectivement travailler en EMDR vraiment sur le souvenir traumatique, mais ensuite en psychosynthèse, en fait, ça va être de l'amener à percevoir dans le ressenti corporel, dans le ressenti émotionnel, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça a activé, qu'est-ce que ça a activé comme image, comment elle s'est sentie, quel aurait été son besoin. Finalement, c'est aussi quelque part, c'est aussi activer, on va dire, la propre capacité, les propres ressources de la personne à venir à ce moment-là répondre à son besoin, celui d'être assuré, celui d'être réconforté, celui de retrouver sa liberté de mouvement. Et ça passe par ce temps de ressenti corporel, émotionnel, et puis d'avancer pas à pas, en fait. Donc on peut s'aider, souvent je m'aide de la méditation, de ce temps d'intériorité, en fait, où les gens vont contacter, et puis contacter aussi des images. On peut travailler aussi avec les symboles à ce moment-là pour voir qu'est-ce que ça symbolise pour elles. Donc là, on est plus sur une élaboration, une intégration, en fait, et on permet vraiment à la personne de se réapproprier ce qui s'est passé pour elle, de façon consciente.
Oui, moi je trouve que moi je me rends compte ce qui est très important souvent déjà dans un premier temps, c'est de prendre en compte le vécu de la personne. C'est-à-dire au-delà de tenter de traiter l'information, c'est déjà de rentrer en contact avec ce que la personne a vécu et de le prendre comme quelque chose d'important. Parce que là aussi, voilà, qui sait. Un médecin, par exemple, il va dire, mais enfin, madame, c'est pour votre sécurité. Un proche, il va dire, mais c'est rien, regarde, il s'est rien passé.
Oui, personne n'en s'en était rendu compte.
Voilà, personne ne s'en est rendu compte. Voilà, c'est après coup, voilà, que quelque chose est resté marqué en elle. Et de prendre ça en compte, déjà, c'est très souvent libérateur. C'est-à-dire, on rentre dans cette espèce et cet espace de relation qui permet déjà d'appréhender le vécu, ce qui a été vécu, pas forcément comment, mais juste que ça a été vécu et que ça a une importance.
On reconnaît la personne dans sa souffrance, en fait.
Oui, aussi. Ouais.
Oui, ça c'est le plus important, c'est d'accueillir.
D'accueillir déjà ça.
Ça permet à lui-même d'accueillir cette souffrance.
Et parfois, quand le choc n'est pas vraiment très conscient, ça permet aussi à la personne tout simplement de se rendre compte que oui, ça a été important. Et de dire effectivement, oui, en fait, j'avais été très mal à ce moment-là. Et de là,
et
après,
c'est légitime.
Et c'est légitime. De toute façon, c'est comme ça qu'elle l'a vécu. Et cette prise de conscience va permettre après d'en faire quelque chose. Tant qu'il n'y a pas la prise de conscience,
on subit.
Oui. Ouais.
Christina, vous travaillez différemment avec un autre outil?
Moi, je travaille avec un outil qui est aussi inspiré de l'EMDR, qui s'appelle EPRTH, encore un truc anglais, ça s'arrange pas du tout.
Je relève les yeux au ciel.
C'est Emotional and Physical Rebalancing Therapy.
Excellent.
Yes. Et donc, on s'intéresse dans cette approche-là, qui utilise aussi le mouvement oculaire, entre autres. On s'intéresse à contacter comment les émotions suite à un traumatisme, suite à un choc, sont emmagasinées dans le corps. C'est-à-dire, c'est vraiment de laisser parler le corps. Donc, on s'intéresse pas spécialement à l'événement lui-même, aux souvenirs, ça peut venir, mais plus par des métaphores, par des images qui peuvent venir. Mais c'est vraiment dans ma manière de le travailler, c'est très axé sur le corps. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Et on fait un peu le chemin inverse pour que les sensations corporelles générées par la peur soient assimilées par le cerveau. Le cerveau, il fait ce travail normalement par lui-même, la nuit, en dormant. Et c'est le principe du mouvement oculaire qu'on reproduit, qui se fait dans le sommeil. Et dans les charges émotionnelles importantes.
Tout ce mouvement oculaire très rapide, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Yes. C'est ça. Et donc, on le reproduit artificiellement, on va dire, à ce moment-là.
Donc ça, c'est important. Ça veut dire que dans la nuit, quelque part, ces mouvements oculaires sont là pour réparer les émotions de la journée.
Absolument. C'est bien ça. Le cerveau, il fait ça tout seul, normalement.
C'est pas mal.
Alors, il fait un peu n'importe quoi avec ça. C'est-à-dire, il va trier. Il fait nuit, donc il voit pas très bien, quand même. Alors, il va mettre les chaussettes noires avec les bleues.
C'est toujours pareil. Bon. Il y en a marre, ces histoires de chaussettes.
Voilà.
Il va y avoir des chaussettes orphelines.
Des chaussettes orphelines. Alors c'est là, ça, c'est le gros bazar. Donc, c'est pas très net, quand même, son histoire.
Comme boulot, ouais.
Mais bon, ça marche pour tout ce qui est quotidien. Il va pouvoir dire, par exemple, quand on est adulte, bon, mais même ça, c'était juste un film, quoi. Bon, voilà. Donc,
ça se passe à quelle heure ou à quel stade de sommeil?
C'est dans les phases. Le sommeil est organisé par phases. En général, c'est 1h30. Et cette phase-là, c'est pendant le sommeil paradoxal, c'est plutôt vers la fin des cycles. Mmh. C'est comme au petit matin quand on rêve, par exemple, c'est cette phase-là. Mais qui se répète dans la nuit.
Plusieurs
fois. Sauf que dans la nuit, vraiment au milieu de la nuit, le sommeil est dans son ensemble plus profond. Et vers le matin, il est un peu plus léger. Donc, on se rend d'autant plus compte de cette période de rêve, etc., etc.
Moi, j'ai remarqué que quand j'avais des insomnies vers 3-4 heures du matin, les choses me paraissaient absolument épouvantables. Le mental qui part à fond. C'est juste catastrophique. Et le matin, je me réveille, je dis... Mais non, mais ça va. Finalement, c'est pas grave. Donc,
Moi, c'est tout le contraire.
Ah bon.
Je suis dans la phase musique, là. On en met une?
Oui.
Like
de la musique de Solange qui écoute l'heure au rose entre 4h et 5h du matin quand elle a les insomnies, tu m'étonnes. On est à Alternative, on est avec Christiane Vinclair et Anne-Marie Fréchin qui on pose n'importe quoi comme question, j'ai remarqué depuis le début.
C'est vrai, ça?
Oui, mais heureusement, elle donne des bonnes réponses.
Oui, c'est ça. C'est le but. C'est pas tellement les questions, c'est les réponses qui sont intéressantes. Quoique, se discute encore une fois. Donc, revenons à l'EPRTH. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu plus, parce que je vous ai un peu interrompu avec mes histoires de sommeil profond et de...
De tourner de l'œil, tout ça.
Oui. Ben, c'était intéressant comme détour, je trouve. Oui.
Mais on peut se perdre, à force.
On peut se perdre pour se retrouver, exactement.
Il faut se perdre pour se retrouver.
Oui, en plus. Oui, donc EPRTH, qu'est-ce que je peux dire? Je ne vais pas détailler peut-être toute l'approche. C'est quand même, la base est la même que l'EMDR, c'est-à-dire on travaille sur le mouvement oculaire. On utilise pas mal on introduit des approches comme la PNL, l'hypnose,
La PNL, la programmation neurolinguistique.
Mais t'en sais des choses, toi.
Merci, c'est bien.
Je t'en prie, non mais oui. Les gens
la
ils
entendent
des trucs comme ça.
La voix off.
Merci beaucoup. Moi, dans ma façon de l'aborder, c'est vraiment cette spécificité sur le corps, sur la
façon dont l'émotion
physiologique dans le corps. Ah. Hein. Pour justement vraiment intégrer au niveau informatif, cérébral, neuronal, ces informations qui sont restées un peu en friche
en vrac,
dans le corps.
Part, ouais. Voilà. Ça se situe où dans le corps, la peur?
Ah ben, alors ça, il n'y a pas de réponse particulière. Je pense qu'il y a certaines...
À côté de l'âme, au gauche.
Voilà la voix off qui a parlé. C'est bien. Non, en médecine chinoise, on dit que
oui,
c'est dans
c'est
le rein.
Oui, je pensais à la médecine chinoise,
oui,
évidemment.
Bien sûr, on parle des reins. Donc, le rein est associé à la peur. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on a peur, on dégage une énergie très puissante. Mm-hmm. Alors, soit dans le repli, hein, on peut faire le mort, par exemple, quand on a peur. Hein. Et de façon assez impressionnante, on pourrait probablement s'arrêter de respirer beaucoup plus qu'il ne le faudrait. On peut prendre la fuite avec autant de puissance qu'on peut se jouer le mort. Et on peut aussi rester complètement bloqué, sidéré justement.
Le fameux freeze of flight.
Ouais,
tout ça, ouais.
C'est ça.
C'est quoi?
On fera des émissions en anglais
ces jours. C'est quoi ça?
Freeze of flight, c'est un symptôme quand on a peur. En fait, on peut soit freeze, c'est-à-dire se geler comme un lapin, tu sais, devant des phares, soit fuir.
Fuir.
C'est des symptômes préhistoriques, quelque part,
ouais,
qui sont toujours...
Animal. C'est animal, oui. Mmh. Et c'est vrai que peut-être, je ne sais pas, la médecine moderne pourra peut-être détecter que lorsqu'on a peur, c'est particulièrement les surrénales qui sont en question. Ça, je ne peux pas répondre, mais je peux imaginer que ça se vérifie au niveau physiologique pour permettre justement... que tout ça se passe parce que le corps ne réfléchit pas, hein. Le corps il fait son boulot, l'émotion brute nous amène à réagir spontanément.
Alors donc quelque part, est-ce qu'on peut dire que l'ordinateur, que le cerveau est un ordinateur et que c'est reprogrammable et qu'avec vos outils vous arrivez à défaire tous les traumatismes?
Alors on peut dire pour une part que le cerveau est un ordinateur, mais nous sommes bien plus qu'un cerveau et donc bien plus qu'un ordinateur. Donc évidemment si on veut
c'est
traiter...
un peu la réponse que j'espérais et que je redoutais à la fois.
Si on veut traiter vraiment le trauma en ne traitant que cette part informationnelle en fait du cerveau, et donc si on réduit notre cerveau à un ordinateur, et ben en fait ça veut dire qu'on traite pas non plus de toute la dimension humaine, subjective et du trauma.
Ces outils, si ma mémoire est bonne, ont été élaborés suite au retour des vétérans américains Alors, du Vietnam, il me semble, c'est là que ça a commencé.
Alors, le MDR, ça n'a pas été élaboré à ce moment-là. C'est une psychiatre américaine, Francine, je pense, ou Françoise, mais je pense que c'est Francine Shapiro, donc qui a découvert ça de façon, on va dire, fortuite. Mm-hmm. Et par contre, les premières applications, ça a été effectivement, mm-hmm. notamment avec les vétérans de guerre qui revenaient du Vietnam et puis voilà.
Fort traumatisés.
Voilà. Donc voilà, c'est vrai que l'armée a été la première, mais même en France, hein, enfin voilà, ça a été utilisé voilà, en premier lieu par l'armée.
Ils sont partis cow-boys et sont revenus cow-boys.
Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Oh là là, l'horreur.
Mais avec Anne-Marie, nous avons choisi de parler vraiment de transformer les traumatismes, parce que ça nous paraissait plus juste de le poser en ces termes-là, et non juste l'idée qu'on pouvait traiter de l'information et ainsi tous les traumatismes disparaîtraient. Hein.
On n'efface
la charge émotionnelle éventuellement. Hein. Enfin, effacer. Enfin, en tout cas, on la transforme, on la digère, on en fait quelque chose de façon à ce qu'elle ne reste pas à bloquer les mouvements de vie. Mais toujours, ça doit s'intégrer quand même dans un ensemble. On n'est pas juste un événement. Enfin, ça s'inscrit dans une histoire de vie, dans un contexte, et qui doit être réactualisé.
Et ce sont des outils qui ne sont accessibles que par les psychothérapeutes et les psychologues. On ne peut pas, n'importe qui n'a pas accès à ces formations-là. C'est quelque chose d'assez sérieux.
Alors, le MDR, en fait, c'est effectivement une formation qui est réservée effectivement uniquement aux médecins et aux psychologues, psychothérapeutes. C'est un choix de leur école, en fait.
Qui est sage ? Ou pas.
Ça joue pas. Je pense que on a aussi des très bons professionnels de la relation d'aide et des gens qui ont fait des formations sérieuses en psychothérapie, qui sont reconnus par la Fédération française de psychothérapie, donc avec des écoles qui répondent vraiment à certains critères. Ces personnes-là qui ont fait ces formations peuvent par exemple pas avoir accès à l'EMDR, alors que c'est des gens qui ont des formations tout à fait reconnues au niveau européen. Donc après, c'est des choix d'école.
Donc voilà.
Bah dis donc, vous m'aviez dit trois musiques. Quand est-ce que je passe la troisième?
Bah maintenant.
Ah bon, d'accord.
The vegetable man in the vegetable van with the horn that's honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around. Put the dollar in the can. I wait. K on the TJ Cowboys hang around. Sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up. Massive visit to the rooster crows. Vatos Vergallos. Chivas on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles. Billy Baracho says, que putas, andale joto, your popsicle's melting. Run, little, run, do, run, 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 run. In the midnight sun. With loaded replays, Guatemalan soccer ball, instant replays. Mango ladies, vendedoras at a bus stop, sing a band of macho chorus.
What? Vamos a jugar fútbol ahí en el Griffin Park. ¡La locura! fine, I'm going to LA to see them. I'm taking a ceramic class. James Joyce. A puppet that tangs with a mullet and a popsicle. Hey, güero. Yeah, bro.
Que onda guerre de Beck dans Alternative, l'émission de L'Heure Rose aujourd'hui avec Christina Winkler, Anne-Marie Fréchin, et on attaque les 5 dernières minutes.
Aïe aïe aïe, 5 minutes, ça va être dur, on a encore plein de choses à dire. On est en train de parler de l'accréditation des professionnels pour utiliser ces outils. Le MDR est reconnu par l'OMS, c'est bien ça ?
Oui.
Mais tout le monde ne peut pas l'utiliser.
C'est ça.
Et par contre, le PRTH ?
Alors, le PRTH, c'est un protocole vraiment de traitement. Et de ce fait, il est autorisé à être utilisé par tous les gens qui ont fait la relation d'aide, les médecines alternatives, etc. Donc, il n'y a pas la contrainte d'une formation médicale ou psychologique, d'une universitaire. Alors, l'intérêt de ce protocole, c'est que vraiment tout est bien ficelé. On peut vraiment faire des séances EPRTH de A à Z en ne faisant que ça. Et
avoir une efficacité.
Avoir une efficacité sous forme de thérapie brève. Donc, quelques séances, plusieurs séances, selon, sachant que de toute façon, en général, quand on a, entre guillemets, nettoyé une première couche, eh ben, il y a autre chose qui apparaît, etc. Mm-hmm. Et comme il s'agit vraiment d'un protocole très strictement établi avec, qui nous est enseigné lors de cette formation et donc dont on comprend aisément le sens pourquoi on doit faire comme ça et pas autrement. Donc c'est suffisamment structuré pour permettre certaines choses.
Pour assurer la sécurité de tout le monde.
Quoi. Après, voilà, moi, comme j'ai expliqué, moi, je l'introduis dans ma manière de travailler, qui est beaucoup plus humaniste et existentielle, et j'y tiens. Donc, c'est pas tout à fait la même chose.
Ça reste un outil dont on peut se servir de façon différente suivant le praticien, je suppose.
Oui, bien sûr, oui.
Anne-Marie ?
Oui, je crois qu'il faut que je précise, parce que si j'ai des collègues en EMDR qui entendent des missions. En EMDR, on a aussi un protocole très, très précis, avec des phases, des étapes. Et je pense que quand on a eu partagé avec Christina, finalement, il y a beaucoup de points communs. On se retrouve. Après, chaque école va pouvoir avoir des petites nuances au niveau du protocole ou insister plutôt sur une chose ou sur une autre. Mais c'est vrai qu'en EMDR, on a aussi cette notion de protocole très précis, de cadre, en fait, très précis.
Alors pourquoi cette différence dans la permission d'utilisation des deux outils ? Peut-être que c'est parce que le MDR est plus utilisé dans la gestion du post-traumatisme ?
Je sais pas, je pense que c'est des choix d'école. Je pense que c'est des choix d'école.
Et peut-être que ça touche à la défense nationale.
Maybe. Who knows ?
Je sais pas. Je sais pas, vous avez dit c'est des soldats qui reviennent dans le
monde. Le MDR revendique peut-être une certaine ancienneté. Je pense que le MDR revendique, en fait...
Oui, c'est vrai que c'est plus connu, en tout cas.
Voilà. Et ensuite, je pense qu'il y a eu d'autres outils qui ont utilisé le MDR et qui ont été aussi utilisés d'autres éléments, même si en EMDR, le MDR, ça se dit être une méthode intégrative, parce qu'on utilise aussi des choses de l'hypnose, de la sophrologie, On est de toute façon de plus en plus dans des courants intégratifs où, en fait, on va prendre ceux qui fonctionnent dans chacun des courants. Ouais. Et puis, on va mettre ça ensemble parce que, en prenant ce qui fonctionne isolément, ça ne fonctionnera que mieux quand c'est mis ensemble.
Mais c'est vachement intéressant. Ça ne vous donnait pas des conférences de temps en temps ?
Alors, cette conférence-là, elle est passée. C'est trop tard. Par contre, bientôt,
moi, j'en
toutes les deux, vous allez intervenir.
Jeudi à Toulouse, sur les, sur les traumatismes. Ah, ben, à la Manne, à Balma.
C'est un peu loin, Toulouse.
C'est un peu loin, mais bon, on peut le dire quand même.
Oui, on peut le dire. Et puis bientôt, vous intervenez donc à COSAD.
Oui, le 11 avril. Nous faisons une conférence sur à quoi sert une psychothérapie.
Pourquoi faire une psychothérapie? Voilà. C'est une bonne question, d'ailleurs.
Ah, c'est une très bonne question.
Alors, comment peut-on se renseigner sur où est-ce qu'on trouve des renseignements sur le net? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone?
Alors, ben, je pense qu'il y a le site du Salon des énergies de COSAD, où effectivement le planning est en ligne sur les conférences.
Zénergie, c'est www.zénergie-nature-santé.fr.
Voilà, et la conférence aura lieu le 11 avril à 14h. Et pour toutes les deux, un site internet chacune peut-être ou...
Oui, mon site internet personnel, c'est www.mtcgestalt.com. Donc, comme la médecine traditionnelle chinoise et la gestalt-thérapie.
Et je rappelle qu'on peut écouter, en se rendant sur CFM Alternative, l'émission qu'on avait déjà enregistrée avec Christina sur la gestalt-thérapie.
Oui.
Voilà. Et Anne-Marie?
Oui, un site internet www.annemarie-fréchin.com.
Ah oh ben voilà, c'est plus simple.
Où on pourra tout savoir sur la psychosynthèse. Anne-Marie, vous reviendrez pour nous parler de psychosynthèse plus précisément?
Tout à fait. Avec plaisir.
Joanne, tu n'avais plus de questions?
Ah non, ça va, j'ai non, plus de bon stop, moi là.
Bon, très bien. Merci à vous d'être venus.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci pour l'avoir.
Alternative sur CFM Keilus, une émission animée par Laure sur les pratiques qui nous permettent d'être bien, d'être mieux. Le samedi 11h et le lundi à 13h. À bientôt. I have to celebrate you, baby.